le 7-9 de France Inter. Première matinale de France, à suivre aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Et l'invité du grand entretien ce matin est le ministre de l'Éducation nationale. Il publie chez Odile Jacob « Construisons ensemble l'école de la confiance ». Sonia Bourane, spécialiste éducation à la rédaction de France Inter, intervient dans 10 minutes. Vos propres questions, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et via l'application France Inter. Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour.
« Construisons ensemble l'école de la confiance ». Ce livre est d'abord et avant tout un bilan d'étapes méthodiques de votre action ces 12 derniers mois, rue de Grenelle, à la fois sur le plan des principes, des idées, puis la description de ce que vous avez fait en primaire, au collège, au lycée, des réformes que vous avez réalisées. Vous fallait-il mettre ou remettre de la cohérence dans votre action, et si oui, laquelle ?
Non, la cohérence, elle y est, j'espère bien, mais il faut surtout expliquer, la montrer cette cohérence, que tout le monde n'a pas le nez sur ces sujets toute la journée.
Donc,
l'objectif, c'est de montrer au lecteur ce qui s'est passé depuis un an, pourquoi ça fait sens, pourquoi c'est cohérent, d'abord avec les engagements pris par le président de la République pendant la campagne, et puis aussi pourquoi tous ces éléments sont cohérents entre eux, et aussi pourquoi nous sommes dans une situation évidemment intermédiaire, puisque un an, c'est à la fois beaucoup et peu. Et donc, au bout d'une année, je veux montrer que d'abord, beaucoup de choses ont été amorcées ou faites. Et puis surtout qu'elle prépare d'autres évolutions et que pour que tout ceci réussisse, il faut qu'il y ait une certaine unité de la société française autour de son école. Et c'est peut-être le but principal du livre, c'est de contribuer à ça. C'est-à-dire que si on explique, eh bien on peut créer plus de compréhension. Et s'il y a plus de compréhension, il y a aussi plus d'interaction. Parce que vous savez, le système ne repose pas juste sur les décisions d'un ministre, il repose sur l'action de plus d'un million de personnes, sans parler des élèves eux-mêmes, 12 millions, de leurs parents. Donc ça concerne tout le monde. Et les sociétés qui ont une école qui va bien sont les sociétés qui font confiance à leur école. Donc moi, si vous voulez, j'ai eu d'abord une immense gratitude vis-à-vis des professeurs de France, des personnels de l'éducation nationale, parce qu'ils ont montré leur réactivité, leur efficacité, par exemple, pour faire la division des classes de cours préparatoires par deux en réseau d'éducation prioritaire renforcé, ou pour mettre en place la mesure devoir fait dans une bonne partie des collèges. Toute cette réactivité, tout ce professionnalisme, eh bien, il est aussi important de le faire reconnaître par la société française.
Vous pensez que les profs vous font confiance ?
Alors, ils sont 850 000, donc bien entendu, je ne prétendrai pas que c'est la totalité.
Vous devez avoir des outils pour mesurer le sentiment que vous suscitez.
Il y a parfois des enquêtes, des sondages.
Mais globalement, vous voyez...
Moi, ce que je sens, si vous voulez, c'est globalement, je répondrai oui quand même. D'abord parce que je vais très souvent sur le terrain, je vois beaucoup de professeurs, et je vois cet esprit de confiance, qui est quand même aussi une expectative. C'est pas une confiance aveugle, certainement pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses que les professeurs attendaient, qui sont soit de l'ordre du discours, soit de l'ordre de l'action, mais qui en tout cas étaient attendues. Parce que les professeurs savent, par exemple, si vous êtes professeur en collège, vous savez bien que vos élèves ont des difficultés de maîtrise du français écrit en particulier, et même oral, que vous avez besoin de renforcer la grammaire. Si vous êtes professeur des écoles, vous savez bien qu'il y a des problèmes de société auxquels j'essaye de m'attacher, comme par exemple l'addiction aux écrans et des problèmes de ce type. Donc,
est-ce que professeurs vous sentez de la défiance aussi?
Je sens qu'il y a des professionnels de la défiance, ça oui. Je les ai vus dès le début, j'étais pas là depuis 24 heures. Alors, vous avez des sites web ou des organisations qui sont spécialisées là-dedans.
Syndicales.
Ça, je les connais, ça peut arriver, mais c'est pas. Vous savez, en même temps, je suis pas. Je cherche pas à dénigrer ou à être justement dans le même état d'esprit, mais il y a des gens même qui sont devenus. Parfois, j'ai l'impression que c'est leur temps plein qui est consacré à.
Les professionnels de la défiance, c'est qui sont les intellectuels qui ne partagent pas vos prises de position, vos orientations. Essayez de nous dire ce qui résiste.
Moi, je crois que ça ne mérite pas qu'on y passe le peu de temps que nous avons ensemble. Chacun
non, mais
peut
qu'on
le voir.
Sache quand même.
Allez sur Internet, vous les verrez. C'est une minorité, justement, ne lui donnons pas tant d'importance que ça. La grande majorité des professeurs ont envie que ça marche. Et moi, le but du livre, c'est aussi de leur parler directement aux professeurs et aussi à tous les personnels de l'éducation nationale.
Et aux parents
en
aussi.
Leur disant, et aux parents, bien entendu, en leur disant, attention, écoutez ce que je dis et lisez ce que j'écris. Ne plus que les commentaires de ce que parce que très souvent le message est transformé. Or pour un système aussi grand, on a besoin d'avoir une communication claire entre nous.
Jean-Michel Blanquer, vous citez l'émancipation des élèves, ces futurs citoyens, l'apprentissage de la langue, de la culture commune, de notre histoire, de notre patrimoine littéraire, le calcul mental. Bref, les fondamentaux, comme on dit d'un mot qui est pas très beau, mais on peine à déceler à la lecture de ce livre. Quelle est exactement la philosophie de l'éducation que vous défendez? Est-ce qu'il y en a une, ou est-ce que même poser la question, c'est ancien monde?
Mais non, c'est pas du tout ancien monde de poser la question.
Alors, et quelle philosophie?
Vous dire, mais je pense que c'est très clair dans le livre.
Non, mais expliquez.
Ne serait-ce qu'en citant plusieurs fois Emmanuel Kant, auquel je suis très attaché.
D'accord,
dans sa philosophie
de
l'éducation. Oui, on peut peut-être le dire en effet. En tout cas, je pense que éducation est synonyme de liberté, que donc ce qui fait sens dans l'éducation, c'est de donner plus de liberté à l'élève au fur et à mesure de son parcours. C'est une liberté construction. Pour qu'il en soit ainsi, il faut donner les savoirs fondamentaux à l'école primaire pour structurer l'enfant, pour lui donner les outils pour la suite. Et plus il va monter en âge, plus on va pouvoir lui donner évidemment des possibilités de choix. C'est le sens de la réforme du baccalauréat et du lycée qui va permettre d'ouvrir les choix et aussi de se donner plus d'atouts pour la suite, pour réussir ses études supérieures.
Qu'avez-vous raté, Jean-Michel Blanquer, ou sous-estimé ces 12 derniers mois? Quel est votre propre bilan à vous, grand spécialiste de l'éducation? Bilan donc d'un ministre société civile du gouvernement.
Alors, je pense que je parlerai mieux de ce qui n'a pas fonctionné quand je n'y serai plus. Là, je pense que pour l'instant, il y a quand même
des doutes et des remords en cours de route.
Je veux bien passer l'émission à parler de ceux qui me dénigrent et de ce qui a raté.
Mais c'est important pense que aussi ce qu'on a sous-évalué, par exemple.
Il y a beaucoup de choses qui sont complexes. C'est pas que je ne les avais pas vues, mais sont parfois difficiles à dépasser. Il y a tout simplement aussi l'immensité des sujets. Si vous voulez, on ne saurait la sous-estimer. Parce que l'éducation, c'est multifactoriel. Celui qui arrive en disant « j'ai la solution » est forcément un imposteur. C'est un éventail de solutions. C'est une boîte à outils qu'on doit donner à la disposition des acteurs, que sont notamment les professeurs. Et donc, de ce point de vue-là, ce qui est difficile, c'est d'arriver à faire tout ce qu'il y a à faire de façon systémique, de façon cohérente. Et c'est bien pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est justement pour donner cet élément de cohérence.
Vous décrivez précisément au tout début du livre, ou à la fin, je me souviens plus, mille excuses, ça se confond. La méthode que vous avez voulu employer, ne pas arriver en faisant une immense loi, la loi Blanquer sur l'école et l'éducation, mais partir de réformes locales en quelque sorte, en espérant qu'elles aient une puissance transformatrice. Mais vous dites le temps de la loi viendra, de la loi sur l'école. Une loi pourquoi? Une loi pour dire quoi? Quels sont encore les grands chantiers que vous avez devant vous?
En fait, ce que j'ai expliqué tout de suite en arrivant, c'est en effet ce que vous avez dit, c'est-à-dire pas une sorte de grande loi initiale qui souvent d'ailleurs absorbe toute l'énergie et avec des résultats qui sont petits. L'objectif, c'est
sauf
en effet
sur le plan narcissique.
Là, l'objectif, c'est plutôt d'avoir des effets de levier à partir de mesures concrètes, comme ce qui s'est passé pour l'école primaire et d'autres mesures dont on pourrait parler. Donc c'est ça la méthode. Mais à un moment donné, vous avez besoin d'une transformation législative, mais pour des raisons très concrètes. Et là. Pardon, l'exemple type, c'est la scolarité obligatoire à 3 ans, qui a été annoncée par le président de la République il y a un mois. Nous aurons besoin d'une loi pour le faire, donc nous le ferons en 2019. Et cette loi sera l'occasion de un petit peu récapituler certaines choses. Mais je n'en fais pas l'alpha et l'oméga de ce que nous avons
fait.
Ceci étant, cette décision a une nature un peu historique. Vous savez, hier, j'étais dans l'Orne, et donc en milieu rural. À un moment donné, j'ai eu une discussion avec une professeure très intéressante, en dehors de l'école, qui intervenait en milieu rural. Elle me parlait de l'extrême pauvreté en matière rurale. Et on a parlé, par exemple, d'enfants qui ne vont pas à l'école maternelle aujourd'hui. Ils sont environ 25 000 en France aujourd'hui à ne pas y aller. Cette loi va avoir beaucoup d'importance pour cela. Donc là, on parle de choses extrêmement concrètes. Et vous le savez, j'attache une très grande importance aux premières années de la vie, à ce qui se passe avant 7-8 ans. Et c'est pourquoi l'école maternelle, le CP, le CE1 sont l'objet de toutes les attentions.
Une question sur la lecture. Je ne sais pas si cette enquête sociologique est encore valable. C'était celle de Baudelot. Et pourtant, ils lisent sur les pratiques de lecture des petits lecteurs. À l'école. Quand ils sont petits, ils adorent lire et ils lisent beaucoup. Il y a une sorte de rapport magique au livre.
Exact.
Hop, on passe au collège et là, c'est fini. Souvent parce que la dimension purement affective au livre disparaît au profit d'une analyse très serrée, très sérieuse. On commence à faire de la rhétorique, de la narratologie. Est-ce que ça, c'est fini? Jean-Michel Blanquer.
Alors je veux vous dire oui, c'est très vrai tout ce que vous venez de dire. D'abord, il y a des études qui montrent ce que vous venez de dire, qui dépassent la France d'ailleurs. Il y a donc plusieurs problèmes dans ce que vous avez dit. Les élèves arrivent avec cette belle curiosité à l'école, et c'est tout le sujet de l'école que de la maintenir, cette curiosité, cet appétit de savoir, et qui se traduit notamment par la lecture. Et puis à l'âge du collège, la lecture baisse, en même temps que l'exercice physique. Ce sont deux choses qui sont en déclin à partir de la sixième. Et bien entendu, le grand concurrent de ces deux activités fondamentales, c'est quand même l'écran. Et je ne suis pas du tout anti-technologique, nous allons faire beaucoup de choses avec le numérique, mais il faut vraiment avoir du discernement en la matière et bien se rendre compte que cette civilisation des écrans dans lesquels nous sommes rentrés a un rôle et qu'il faut le traiter, ce rôle.
Et c'est l'écran un message ou la narratologie et
Donc premier élément, celui-là. Je voulais d'abord dire ça parce que c'est structurel et c'est mondial, ce que je viens de dire. Et puis il y a un aspect français que vous avez souligné, en effet, et qui est la conception même de la discipline qu'elle français, et même de ce qui se passe en français dans d'autres disciplines. Et en effet, vous avez raison, il y a eu une tendance ces dernières décennies à être techniciste dans l'approche du français, alors que la lecture, c'est d'abord et avant tout du plaisir. Et donc la fréquentation de la littérature, y compris la littérature patrimoniale, la littérature ancienne, il ne faut pas avoir peur de ça, le 19e siècle est magnifique en littérature, et la littérature contemporaine, cette culture générale et ce plaisir qu'on doit donner aux enfants, oui, doivent être au premier plan, et je l'ai clairement affiché.
Alors avant de donner la parole à Sonia Bourhan, dans une dernière question, la laïcité évidemment traverse votre livre, vous décrivez ce que vous avez voulu mettre en œuvre, quelle est votre approche du sujet? Une porte-parole voilée de l'UNEF a été vue à la télévision, cette jeune fille a parfaitement le droit d'être voilée, mais... Comment avez-vous reçu l'image ou le symbole, Jean-Michel Blanquer ?
Nous sommes une démocratie et bien entendu, comme vous l'avez rappelé, elle a le droit d'être voilée dans cette démocratie. C'est la beauté de notre pays, ceci. Et on doit se battre pour la liberté de tous de faire des choix. Maintenant, on voit bien que si une présidente de l'UNEF est voilée, c'est quand même un changement d'époque. Et d'ailleurs, des fondateurs historiques de l'UNEF l'ont dit. Et ça peut pas ne pas nous interpeller d'une certaine façon, parce que je connais assez bien l'UNEF pour avoir vu depuis longtemps. C'est pour moi, c'était synonyme de féminisme, c'était synonyme d'égalité homme-femme. Et là, je suis pas certain que ce soit le message renvoyé de cette façon-là.
Il est 8h34. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, auteur de Construisons ensemble, l'école de la confiance, et l'invité de France Inter. Sonia Bourhan.
Bonjour. Bonjour. 7 millions de vœux formulés dans Parcoursup. Les réponses vont arriver à partir de mardi. Est-ce que vous pouvez assurer à tous les candidats, à tous les élèves de terminale, que tout se passera bien et qu'ils auront bien une place dans l'enseignement supérieur ?
Oui, c'est l'objectif, bien entendu, auquel on a travaillé avec Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. Tout ne se joue pas le 22 mai, ça je crois que c'est important de le dire tout de suite. Tout le monde n'aura pas sa place définie le 22 mai, pas plus que ça n'était le cas les années précédentes. Comme vous le savez, le système que l'on a voulu, c'est un système qui permet de passer du tirage au sort à une véritable rationalité de l'affectation de tous, tout en permettant à chacun de trouver sa place. Et donc chacun trouvera sa place, nous allons nous y atteler, ça va se passer en plusieurs temps, il y a tous ceux qui auront tout de suite une réponse, puis au fil de l'eau, des réponses seront données notamment tout au long du mois de juin. Et donc notre objectif, c'est évidemment l'affectation de tous. Et il y a eu aussi des créations de places, il faut bien le dire, 17 000 places créées dans les filières en tension. Moi-même, j'ai créé des places en BTS, notamment pour que des bacheliers professionnels puissent y accéder davantage, parce que c'est en BTS que les bacheliers professionnels réussissent davantage quand ils font des études supérieures que dans d'autres secteurs. Donc tous ces éléments que je qualifierais de rationnels, nous les avons développés au bénéfice des élèves, qui d'ailleurs en sont conscients.
Alors, vous avez aussi décidé d'engager une loi sur le portable à l'école et au collège. Est-ce que ce n'est pas démagogique? La plupart des collèges interdisent déjà le portable. Est-ce que vous aurez les moyens de faire appliquer cette loi?
Oui, bien entendu. D'ailleurs, c'est une loi, ça va être une proposition de loi. Ça nous renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure. Dans le livre, j'explique bien ce rapport que nous devons avoir avec la technologie. Et donc, il y a des aspects positifs et négatifs. Pour les raisons que nous avons vues il y a un instant, le téléphone portable peut avoir des aspects très nuisibles. C'est vrai en termes d'addiction, c'est vrai en termes de harcèlement. Avant-hier, je donnais des prix à des élèves qui luttent contre le harcèlement. J'ai parlé de ça avec eux. Les enfants savent très bien que le smartphone souvent sert à cela. cela et qui peut avoir des urgences. Si tout le monde est mis à égalité devant cette question, eh bien, cela se passera bien. Et donc, oui, ce sera établi par la loi, mais aussi par des consignes pratiques que nous donnerons, avec une liberté de choix dans les modalités pour les collèges. Et donc, ce sera une réalité à la rentrée prochaine.
Mais qu'est-ce qui changera vraiment par rapport à ce qui se passe aujourd'hui ?
Eh bien, aujourd'hui, vous avez des... Alors, d'abord, aujourd'hui, vous avez des collèges où c'est interdit totalement. Et ils vont bien. Ça se passe bien pour eux. Donc, pour tous ceux qui disent que tout ceci n'est pas faisable, c'est déjà la première réplique essentielle. C'est-à-dire qu'en réalité, bien sûr que c'est faisable quand on le veut. Et deuxièmement, ce qui va se passer, c'est que tous les collèges seront dans cette situation, pas seulement dans la salle de classe, mais aussi dans l'établissement. Quand il y a un usage pédagogique du smartphone, alors l'autorisation pourra être donnée, évidemment, spécifiquement.
Sonia Bourade.
Il y a une réforme dont on parle peu, celle de l'orientation, qui est pourtant essentielle. Vous allez déléguer aux régions les CIO, les centres d'information et d'orientation. Alors, les personnels sont inquiets pour leur avenir et craignent une rupture d'égalité sur le territoire. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Alors, c'est pas tout à fait ce que vous avez dit. D'abord, c'est vrai qu'il y a une grande évolution de l'orientation. Et ça se traduit dès la rentrée prochaine pour les élèves de seconde qui auront 54 heures d'orientation dans l'année. C'est donc très important. Nous avons pris toute une batterie de mesures. Et c'est vrai que dans la loi qui arrive ces prochains jours, porté par Muriel Pénicaud, mais aussi en partie par moi-même, eh bien, nous consacrons ce qui a déjà été dit dans le passé, c'est-à-dire la compétence en matière d'orientation des régions, de façon à ce qu'au plus près du terrain, les régions puissent aider les élèves à avoir plus d'informations sur les filières d'enseignement supérieur et sur les métiers. Et donc, c'est une mesure à la fois très pragmatique et dans l'intérêt des élèves, parce que je pense que nous savons tous qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès à faire pour que l'orientation soit plus réussie. Nous avons dit que nous mettrions les centres d'information et d'orientation dans les établissements. Ça ne veut pas dire que nous les donnons aux régions, ça signifie simplement que nous les mettons au plus près des élèves. Donc ce qui va se passer dans le futur, c'est qu'il y aura une compétence de principe des régions, mais il y aura encore une forte action de l'État, évidemment, de l'éducation nationale sur ce sujet, y compris au travers de ses personnels. Une plus grande responsabilisation des professeurs, c'est ce qu'on a fait cette année avec un deuxième professeur principal en terminale pour aider l'élève à justement s'orienter dans Parcoursup. Et donc c'est une batterie de mesures, là aussi, qui vont aller, évidemment, dans l'intérêt de l'élève.
Allez, on file au standard 01 45 24 7000. Intervenez. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur le ministre. J'ai 49 ans, je suis en licence études nordiques à la Sorbonne Malesherbes. Je précise que je suis contre la loi ORE et Parcoursup et que je soutiens mon amie Mariam Pouchetou dont vous venez de parler. Monsieur le ministre, nous avons reçu une circulaire de notre doyen hier qui nous précise le report de l'ensemble des épreuves pour le mardi 22 mai prochain et le report au-delà du 1er juin. La délocalisation des épreuves dans les hôpitaux parisiens. Mmh. Il y a beaucoup de directeurs d'université en France qui s'obstinent à nous faire passer les examens coûte que coûte dans des conditions déplorables lorsque les modalités alternatives d'examen sont possibles. Je dois vous rappeler quand même qu'un report...
Dites-nous, Cécile, est-ce que vous avez une question pour Jean-Michel
oui,
Blanquer
tout
Alors,
à fait.
Formulez-la, s'il vous plaît.
Plusieurs universités en France sont concernées par ce problème. Pensez-vous qu'il est possible de raisonner ces directeurs d'université et d'opter pour les devoirs maison, comme l'a fait en toute intelligence, je dois le souligner, Nathalie Dompier à Lyon.
Merci pour cette question. Jean-Michel Blanquer vous répond.
Bien, d'abord, c'est évidemment une question d'abord pour Frédéric Vidal, mais je vais quand même vous répondre. Je pense que d'abord, ce qui est très condamnable, c'est ce qui a abouti à cette situation. Il y a des gens qui ont bloqué. Et ce qui est pire, c'est qu'il y a même récemment des gens qui ont bloqué les examens, ce qui est un scandale profond, avec même l'aide d'un député. Ce qui me paraît mais une contradiction totale avec la définition qu'on peut avoir de la démocratie et de l'état de droit. Je rappelle que c'est une
Éric
minorité
Coquerel pour la France insoumise.
C'est une minorité de personnes qui ont bloqué les autres et c'est d'abord cela qu'il faut dire, c'est un scandale absolu et j'aurais aimé que madame que vous condamniez d'abord cela. Ensuite
alors,
sur la question des examens, nous devons évidemment garantir aux étudiants qu'ils puissent passer leurs examens et donc les présidents d'université auxquels vous faites référence, ils ont fait leur maximum pour proposer de nouvelles formules, je ne saurais les condamner, c'est eux qui sont au plus près des réalités et je suis certain qu'ils ont pris des bonnes décisions.
Et quand ça n'est pas possible, on le fait à la maison, c'est ça, on passe les
oui,
examens
mais
à la maison.
On voit bien que c'est une solution de dernière limite, avec tous les effets pervers que ça peut avoir, y compris en termes de tricherie. Donc, je ne sombrerai pas dans la démagogie dans la réponse que je vous ferai.
Pierre, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Bienvenue, bonjour. Je suis professeur des écoles, directeur d'école. J'adore mon métier, j'adore mes élèves, j'adore mon école, mes collègues, et j'y mets beaucoup de cœur.
Et votre ministre.
Mais voilà, justement, beaucoup moins. Moi, je voudrais savoir quels sont les titres et les diplômes en pédagogie et en didactique de Monsieur Blanquer, qui impose ses méthodes de lecture dans ses dernières notes, qui nous impose ses méthodes de lecture. Certaines recommandations ne posent pas beaucoup de problèmes, mais d'autres sont beaucoup plus discutables. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail, jusqu'à nous imposer ou en tout cas nous conseiller la taille des cahiers. Donc moi, je ne savais pas que Monsieur Blanquer savait qu'en Bretagne, dans telle école, il fallait telle taille de cahier. Est-ce que c'est comme ça qu'on construit ma question, c'est est-ce que c'est comme ça qu'on construit l'école de la confiance avec les personnels, en gros en nous disant que tout ce qui est fait aujourd'hui vraiment n'est pas adapté. Et
vous avez l'impression d'être pris pour un élève de maternelle, Pierre, c'est ça ?
S'il vous plaît,
la première pour commencer. D'accord. Jean-Michel Blanquer vous répond, Pierre.
Bon, d'abord, monsieur le directeur, vous avez droit à toute mon estime et je suis certain que ce que vous faites est très bien. Donc, le problème de votre question, c'est qu'elle est basée non pas sur ce que j'ai dit ou écrit, mais sur ce qu'on dit que j'ai dit et écrit. Et d'ailleurs, dans le livre, j'ai mis en annexe les textes auxquels vous faites référence. Et c'est très important de les regarder, d'autant plus qu'il y a deux catégories de textes. Il y a des recommandations pédagogiques qui peuvent être très utiles, peut-être moins pour quelqu'un d'expérimenté comme vous. Et dans ce cas-là, c'est très bien, si ça ne vous est d'aucune utilité.
Bataille des cahiers, vraiment.
Non, mais justement, là, il y a deux documents différents. Et tout le monde, il y a eu 1000 caricatures de ce sujet. Vous avez 4 recommandations pédagogiques, et là, il n'est pas question de la taille des cahiers. Et par ailleurs, vous avez un livret, comme l'Éducation nationale en a produit d'ailleurs beaucoup dans les temps passés, qui tout simplement fait 150 pages, n'est certainement pas une instruction qui dit « prenez ce cahier de telle façon », mais qui donne des conseils. Et parmi ces conseils, il y a en effet le fait que une certaine catégorie de feuilles est plus propice à l'écriture, c'est un fait. Et c'est bien sûr pas moi, cher monsieur, du haut de mon chapeau, qui a décidé tout cela. Il y a des processus que j'appellerais d'intelligence collective. Sachez que ce livre a été vu par les meilleurs spécialistes du sujet. Donc le problème n'est évidemment pas moi-même, mais le problème c'est un consensus scientifique réalisé en consultant non seulement les meilleurs spécialistes du sujet, mais aussi en réalisant des comparaisons internationales et le faire au bénéfice des professeurs. Vous savez, je suis en soutien des professeurs quand je regardais ce que j'écris dans le livre ou tout ce que je dis en permanence. Ce que je demande à la société française et ce que je pratique moi-même, c'est justement cette logique de confiance. Et vous pouvez être assuré de cette confiance. Simplement, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des professionnels de la défiance. Dès que ces recommandations sont sorties, il y a eu plein de gens pour interpréter de manière totalement erronée ce qui a été envoyé. Donc je vous demande vraiment de tout simplement de bien croire cela et de regarder ce qui est écrit dans les 4 recommandations pédagogiques qui correspondent très probablement à l'essentiel de vos pratiques et peut-être vous aideront sur certains points.
Plusieurs questions sur l'application France Inter. Philippe, par exemple, j'ai la plus grande admiration pour Monsieur Blanquer, ça commence bien. On peut donc être ministre de l'éducation et écrire un livre. François, où trouvez-vous le temps pour être ministre et écrire des livres, monsieur le ministre ?
Vous savez, je me lève très tôt, je suis debout tous les matins à 5h, j'ai toujours un temps de lecture et d'écriture. J'ai aussi le week-end, j'ai pas pris de vacances cette année.
Vous écrivez sur votre
temps.
J'ai considéré
que ça faisait partie de mon travail que d'expliquer à tout le monde ce qui se passait.
Dernière question, Florence, par courrier électronique. Monsieur le ministre, les classes prépa filières d'excellence sont-elles des filières menacées ? Ce sera la dernière question.
Non, pas du tout. Je pense même qu'à certains égards, elles montrent un chemin, y compris pour l'université, parce que ce dont on a besoin au début d'un cursus d'enseignement supérieur, c'est d'une certaine propédeutique d'études assez générales qui permettent une bonne transition avec des spécialisations qui suivront. Et de ce point de vue-là, le modèle des classes préparatoires est très intéressant. Bien sûr, il a vocation à évoluer. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans les 20 dernières années. Il y a beaucoup d'innovations pédagogiques en classe prépa, contrairement à certains clichés. Et donc, nous avons vocation toujours à tirer vers le haut notre système et les classes préparatoires y contribuent.
Jean-Michel Blanquer, monsieur le ministre de l'Éducation, merci. À lire donc « Construisons ensemble ». J'essaye de faire la liaison. L'école de la confiance, publiée aux éditions Odile Jacob. Merci d'avoir été au micro d'Inter.
Merci à vous.